Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibault avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au moins 29 morts dans un mouvement de foule à un rassemblement religieux au Libéria. Le Mali refuse le survol de son territoire à un avion militaire allemand. Au Soudan, des milliers de personnes ont à nouveau défilé en hommage aux manifestants tués. L'Ukraine avertit d'un renforcement des troupes russes. Washington soutient Kiev et appelle à trouver une solution diplomatique. Mais bien sûr, comme chaque jour, place au journal de la Cannes, présenté par Emmanuel Jules Tap. Le champion en titre, l'Algérie, éliminée dès le premier tour de la Cannes. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale entrent dans le tableau des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Retrouvons à Yaoundé Emmanuel Junta pour le journal de la Cannes. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont livré un match parfait au stade de Japoma à Douala avant de venir à bout des fenêtres d'Algérie sur le score de 4-1. Des buts inscrits par Franck Kessié à la 22e minute de jeu. Le Milanais, idéalement servi par un virevoltant Nicolas Pépé, a ouvert la marque du plat du pied gauche. 17 minutes plus tard, sur un coup franc millimétré de Serge Aurier, Ibrahim Sangaré rabat d'un coup de tête la balle dans les filets sous le regard impuissant du gardien algérien. En seconde mi-temps, Nicolas Pépé, bien inspiré, va sur une action individuelle clouer l'Algérie à la 54e minute, alors que l'attaquant ivoirien Sébastien Héler va crucifier les Fenech dans les arrêts de jeu. Le but de l'Algérie inscrit à la 73e minute n'a pas changé le cours du match. L'Algérie aurait pu espérer si Riyad Mahrez n'avait pas manqué son pénalty à la 60e minute. À Limbé, c'est le Zalang National, la sélection de la Guinée équatoriale, grâce à un but inscrit en première période, qui est passé au prochain tour, victorieuse face à la Sierra Leone, qui a joué de malchance avec un pénalty raté et un joueur sanctionné d'un carton rouge. Deux des trois affiches sont prometteuses et seul le match des huitièmes de finale entre le Maroc et le Malawi paraît déséquilibré, nous dit depuis Bafoussam à Medinsi.
En effet, les amateurs du football seront gâtés car ils auront droit à des matchs chocs, pour ne pas dire des affiches de rêve. Ce sera le cas de cette rencontre entre le Burkina Faso et le Gabon. Les étalons du Burkina qui ont terminé à la deuxième place du groupe A derrière le Cameroun iront défier le Gabon deuxième du groupe C pour un match qui s'annonce palpitant. Le Sénégal, pour sa part, affrontera le Cap-Vert, un match prévu le 25 prochain. Au stade de Bafoussam, les Lions, leaders de ce groupe B, auront fort à faire en face aux Cap-Verdiens qui joueront certainement sans complexe. Je crois qu'à ce moment, le Sénégal reste jouable car les points d'Alusité n'ont pas encore convaincu. Donc, le duel entre Lyon et les Recoins Bleus s'annonce aussi intéressant. Le Maroc fera face au Malawi. Les Lions de l'Atlas devront faire très attention à cette équipe du Malawi qui a créé d'énormes problèmes aux Sénégalais. D'autres affiches seront aussi bientôt au programme avec les pilotes de ces phases de groupe. Ahmed Nsi pour la VOA.
Même si le Maroc est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale, son entraîneur a essuyé de vives critiques de la presse marocaine présente au Cameroun pour la CAN. Dans un style qui lui est habituel, le coach Vaïd des Lions de l'Atlas répond à ses détracteurs au sujet de son système de jeu.
Après les garçons, vous savez, le Chahir, il y a un an, c'est découvert, il a fait Superman, il n'est pas encore au top form, mais vous savez, j'ai pris risque, garçons, ils n'ont pas au top, et vous continuez à critiquer Vaïd, il n'y a aucun problème, ça, mais je ne dis pas du tout. Ce soir, je veux bien dormir. Si vous ne me critiquez pas, bah, c'est ça qui va m'inquiéter beaucoup. Mais je dors bien, je mange bien, j'ai même commencé un petit peu maigri.
La presse guinéenne a elle aussi émis des réserves sur le schéma tactique du sélectionneur du Sili National. En cause, son système de jeu basé sur le 5-3-2, Kaba Diawara va-t-il le changer pour le match de huitième de finale? La réponse du sélectionneur de la Guinée, Conakry.
Moi, j'ai toujours dit, le schéma, c'est le schéma tactique de départ. Mais si vous voyez bien l'animation, c'est ça qui fait la différence. C'est des professionnels, ils ont l'habitude de jouer dans ce genre de schéma. Je ne vois pas pourquoi on revient encore me prendre la tête avec le 3-5-2, le 4-3-3, le 4-5-1. On peut jouer dans toutes les façons. Ce qui compte, c'est l'animation. Ceux qui connaissent le football savent que un système tactique, il est défini au départ. Et c'est surtout quand on n'a pas le ballon. Quand on a le ballon, c'est les joueurs qui font la différence aujourd'hui. On l'a moins fait. On l'a moins fait. On va peut-être penser qu'on a pris la grossette. Il faut se remettre au travail, mais le système n'a absolument rien à voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour le 8e de finale. On va bien réfléchir, mais il ne faut pas me parler chaque fois qu'on va faire un mauvais résultat, que c'est le système. Alors je vais clore le débat, comme ça au moins c'est clair et net, que ce soit clair et net pour tout le monde ici. Le 4-3-3 guinéen, on n'a plus les joueurs pour jouer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez encore des Fodé Mansaré, des Yatara ou des Bangoura, on n'en a plus. Donc, quand on avait ce genre de joueur, on pouvait jouer un 4-3-3. Maintenant, j'invite quiconque, si vous voulez parler tactique, on parlera tactique, mais ça n'a rien à voir avec le schéma tactique. J'espère que je me suis bien fait comprendre.
Les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale seront connus au terme des matchs Gambie-Tunisie et Malawi-Mauritanie qui se disputent en nocturne. C'est tout pour le journal de la CAN. Amédine Sy, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Retour à l'actualité sur le continent. Au Libéria, au moins 29 personnes, dont 11 enfants, sont mortes piétinées la nuit dernière à Monrovia dans un mouvement de foule lors d'un rassemblement religieux sur un terrain de football. Le bilan pourrait s'alourdir car plusieurs personnes sont dans un état critique. Nathalie Barge.
Les faits sont survenus lors d'un rassemblement de deux jours dans le quartier de Niukrou à Monrovia, consacré aux prières autour d'un prédicateur populaire, le pasteur Abraham Kroma, qui a attiré des foules importantes. Selon les médias locaux, des malfaiteurs armés de couteaux ont causé un mouvement de panique en dévalisant les fidèles à leur sortie. Les gens ont alors couru, piétinant ce qui tombait. La panique a provoqué un reflux. Ceux qui sortaient se sont retrouvés en face de ceux qui fuyaient. Le président George Weah a déclaré 3 jours de deuil national et ordonné la mise en berne des drapeaux sur les édifices publics. Il a demandé une enquête rapide pour savoir si des agissements criminels sont responsables du drame. Les manifestations religieuses, caractérisées par leur ferveur, sont courantes au Libéria. En novembre, une bousculade lors d'un tel rassemblement avait causé la mort de 2 enfants dans le centre du pays.
Le Mali a refusé le survol de son territoire à un avion de l'armée allemande qui se rendait au Niger, a indiqué jeudi l'armée de l'air allemande. L'avion transportait du personnel militaire. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Un Airbus de la Bundeswehr en provenance d'Allemagne avec environ 80 militaires à bord s'est vu refuser le droit de survoler le Mali alors qu'il se rendait à Niamey au Niger. L'armée de l'air allemande a déploré cet incident sur Twitter et a prévenu que les faits seront clarifiés. La MINUSMA a souligné ce jeudi que c'était elle qui avait suspendu ses vols dans l'attente de la finalisation des nouvelles modalités. La mission de l'ONU au Mali a aussi annoncé la reprise de ses opérations aériennes suspendues depuis la semaine passée. Le premier vol doit avoir lieu demain vendredi, a précisé un porte-parole. Environ 1 millier de soldats allemands sont engagés dans la MINUSMA. Les autorités de Bamako ont, elles, fermé les frontières maliennes au pays de la CEDEAO. Début janvier, les chefs d'État ouest-africains ont adopté des sanctions sévères contre le Mali. La Guinée a refusé d'appliquer ces sanctions, ainsi que la Mauritanie, qui n'est pas membre de la CEDEAO.
Au Burkina Faso, une manifestation prévue samedi contre l'insécurité dans le pays a été interdite aujourd'hui par la mairie de Ouagadougou, où un précédent rassemblement interdit en novembre 2021 avait donné lieu à des violences. Au Soudan, des milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui à Khartoum en hommage aux martyrs, alors que le nombre des victimes de la répression ne cesse de s'accroître. Le pouvoir militaire a renforcé son emprise depuis le putsch du 25 octobre. Plus de détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Les militaires à la caserne ont scandé les manifestants dans différents quartiers de la capitale. Des dizaines d'entre eux se sont dirigés vers la représentation de l'ONU à Khartoum avec des pancartes « Non aux solutions venues de l'étranger » en réponse à l'initiative de dialogue des Nations Unies que la rue rejette en bloc, réclamant la remise du pouvoir aux civils. Outre l'ONU, l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, David Satterfield, et la secrétaire d'État adjointe, Molly Fee, tentent aussi d'appeler au dialogue à Khartoum. Mercredi soir, les joueurs de l'équipe nationale de football sont même allés jusqu'à poser le genou à terre pour une prière aux morts avant le coup d'envoi de leur dernier match de CAN au Cameroun. 72 manifestants ont été tués, pour beaucoup par balle, depuis le coup d'État du 25 octobre, selon des médecins pro-démocratie. La police, elle, affirme qu'un de ses généraux a été poignardé à mort par des manifestants.
La Centrafrique va organiser ses premières élections municipales depuis 30 ans. L'autorité nationale des élections a annoncé que le pays va organiser le 11 septembre 2022 ses premières élections municipales. Pendant plus de trois décennies, l'autorité exécutive désignait des personnes au sein des communautés pouvant faire office de maire. C'est ce qu'a précisé Théophile Momo-Kohama, porte-parole de l'ANE. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a achevé sa tournée dans la région par des entretiens avec un haut responsable algérien chargé de ce dossier, a annoncé le ministère algérien des Affaires étrangères. Monsieur de Mistura, dont c'est la première tournée depuis sa prise de fonction en novembre, a réaffirmé la nécessité d'engager des négociations directes et sans conditions préalables entre les deux parties au conflit, c'est-à-dire le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Sur la pandémie du Covid-19, le nombre hebdomadaire de cas a considérablement chuté en Afrique et celui des décès a également baissé pour la première fois depuis le pic de la quatrième vague causée par le variant Omicron, a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. C'est la flambée la plus courte que le continent ait connue, qui a duré 56 jours, a précisé le bureau régional Afrique de l'OMS. Seule l'Afrique du Nord a signalé une augmentation du nombre de cas la semaine passée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine a averti que la Russie a presque terminé un renforcement des troupes qui pourrait être utilisé pour une offensive contre le pays. Washington, qui soutient Kiev, appelle à trouver une solution diplomatique avec la Russie à la veille d'un nouveau face-à-face entre les deux puissances. Nanit Talani.
Selon le ministère ukrainien de la Défense, la Russie a déployé plus de 127 000 soldats dans la région. Il ajoute que Moscou soutient aussi plus de 35 000 rebelles dans l'est de l'Ukraine. Washington appelle Vladimir Poutine à choisir la voie pacifique. Le président Joe Biden a promis un désastre pour la Russie en cas d'attaque contre l'Ukraine, évoquant aussi des sanctions bancaires sans précédent et l'impossibilité de faire des transactions en dollars. Il a également mis en avant le risque de lourdes pertes humaines sur le champ de bataille. Les États-Unis ont par ailleurs autorisé les pays baltes d'expédier des armes de fabrication américaine à l'Ukraine. Moscou continue de nier toute intention d'envahir l'Ukraine et a déclaré que les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine augmentent la tension et qu'elle attend toujours une réponse écrite à ses demandes de garantie de sécurité. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, doit rencontrer demain vendredi son homologue russe Sergei Lavrov à Genève, en Suisse.
Les autorités américaines ont également imposé des sanctions à l'encontre de quatre Ukrainiens accusés de travailler avec les services secrets russes, dont deux députés en exercice, invoquant leurs activités déstabilisatrices en Ukraine. Nous reviendrons sur ces tensions autour de l'Ukraine en seconde partie de ce journal. L'Iran, la Russie et la Chine vont débuter demain vendredi des exercices navals conjoints de trois jours dans l'océan Indien, visant notamment à renforcer la sécurité commune, a annoncé un responsable de la marine iranienne. L'annonce de ces manœuvres intervient au moment où le président iranien Ebrahim Raisi se trouve à Moscou pour une visite officielle, durant laquelle il s'est dit déterminé à renforcer les relations avec la Russie. Ici aux États-Unis, la justice fédérale entame la sélection des 12 jurés qui qui devront se prononcer sur la culpabilité de Tu Tao, Alexander Kueng et Thomas Lane, les trois collègues de Derek Chauvin qui a déjà été condamné à 22 ans de prison pour le meurtre de George Floyd. Il aurait reproché de ne pas lui avoir apporté d'aide alors que Floyd agonisait sous le genou du policier blanc le 25 mai 2020 à Minneapolis. Au Pakistan, au moins 2 personnes ont été tuées, 22 autres blessées dans l'explosion d'une bombe jeudi devant une banque d'un quartier commerçant de Lahore, la 2e plus grande ville du pays. L'attentat a été revendiqué par des séparatistes balouches. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le président américain Joe Biden a défendu sa première année au pouvoir comme une année de défis, mais aussi de progrès considérables lors d'une longue conférence de presse à la Maison-Blanche hier. Lors de sa campagne électorale, M. Biden avait promis d'éradiquer la pandémie de coronavirus. Nathalie Barge.
Joe Biden a vanté l'adoption d'une loi pour lutter contre le coronavirus à hauteur de 1,9 billion de dollars et d'un plan de 1 milliards de dollars pour les infrastructures du pays. Il a cité l'augmentation du nombre d'Américains vaccinés et la diminution du chômage. Mais son filet de sécurité sociale de 1,8 billion de dollars et sa proposition sur le changement climatique sont au point mort au Sénat en raison de l'opposition du sénateur modéré Joe Manchin qui détient un vote critique. Les journalistes ont demandé au président s'il n'avait pas trop fait de promesses.
Look, I didn't overpromise, and what I have probably outperformed what anybody thought would happen.
Écoutez, je n'ai pas trop promis, mais je pense que si vous regardez ce que nous avons pu faire, vous devriez reconnaître que nous avons fait d'énormes progrès. L'une des choses importantes que je n'avais pas été capable de faire jusqu'à présent, c'est d'emmener mes amis républicains à participer au jeu pour améliorer les choses dans ce pays.
One thing I haven't been able to do so far is get my Republican friends to get in the game and making things better in this country.
Joe Biden a fait campagne pour mettre fin à la pandémie qui entre dans sa 3e année avec l'augmentation fulgurante de cas d'infection due au variant Omicron. Tom Hart, président de la campagne One, interviewé par Arash Arabasadi de La Voix de l'Amérique.
The president is really succeeding on the global response.
Le président réussit vraiment la réponse mondiale grâce à des engagements directs des États-Unis envers les pays dans le besoin en termes de doses, en termes de dollars et en termes de coopération.
L'épidémiologiste Eric Fegding, chercheur principal à la Fédération des scientifiques américains, estime que l'administration Biden aurait pu faire plus pour lutter contre la désinformation et garantir l'amélioration des systèmes de ventilation dans les établissements publics.
Je pense que l'administration Biden, dans l'ensemble, a bien fait quand il s'y est mise. Donc je pense qu'ils obtiennent un A moins ou un B plus. Cependant, le problème est que souvent, leurs politiques se sont trop appuyées sur une approche uniquement vaccinale.
Les sondages récents ont montré que davantage d'Américains désapprouvent la gestion de la pandémie par Joe Biden. Sa popularité a commencé à baisser depuis le retrait des forces américaines d'Afghanistan en septembre, la confusion sur les derniers protocoles de santé et la forte progression de l'inflation.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Si la Russie attaque l'Ukraine, la situation pourrait échapper à tout contrôle, s'est inquiété hier le président américain Joe Biden. En visite à Berlin, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a assuré que tout franchissement de la frontière ukrainienne par la Russie entraînerait une réaction rapide et sévère des États-Unis. Pour mieux comprendre cette crise, nous avons joint la spécialiste de l'Ukraine et maître de conférence à l'Université de Bourgogne, Alexandra Goujon.
Symboliquement, la présence d'Anthony Blinken à Kiev avant la visite à Moscou est extrêmement important parce que ça vient, on va dire, conforter la position américaine sur le fait, je cite, que on ne discutera pas de l'Ukraine sans l'Ukraine. Donc il y a une volonté d'inclure l'Ukraine dans des pourparlers au départ que les Russes voulaient strictement russo-américains. Cette position n'est pas très étonnante puisqu'en fait, depuis le début du conflit en 2014, les Américains ont soutenu véritablement l'Ukraine, ils le rappellent régulièrement et le soutien militaire là qui vient d'être évoqué est une pierre de plus à un édifice qui est déjà bien présent puisque les Américains fournissent à l'Ukraine des armes défensives. Donc ça vient conforter la posture américaine sur la souveraineté ukrainienne.
Une rencontre est prévue vendredi entre Anthony Blinken et son homologue russe, Sergueï Lavrov. Que va-t-il en sortir selon vous ?
Je pense qu'on va rester dans une relation relativement tendue puisque en fait la Russie qui a posé ses exigences dès le mois de décembre avec des propositions traitées, une volonté d'avoir des garanties écrites sur l'OTAN, les Américains et leurs alliés européens ont clairement signifié que c'était des engagements que les Occidentaux n'allaient pas immédiatement, on va dire, réaliser et surtout étaient en désaccord sur le fond, c'est-à-dire de limiter a priori l'élargissement de l'OTAN. Par contre, je pense que la grande difficulté dans ce dialogue, c'est qu'on a une affaire d'agenda qui est complètement différente. Les Russes veulent aller vite. Ils l'ont dit, ça ne va pas prendre des années, ni même des mois. On veut quelque chose de rapide. Or, j'ai le sentiment que les Américains, en fait, dans ce dialogue, essayent surtout de gagner du temps, en fait, c'est-à-dire de poursuivre le dialogue, tout en restant, on va dire, sur une posture relativement ferme.
Le chef de la diplomatie ukrainienne s'est toutefois montré optimiste, hein, puisqu'il a dit « espérer que les discussions de Genève déboucheront sur un comportement de la Russie moins agressif ». Est-ce que vous sentez toujours cet optimisme du côté ukrainien ?
Alors, il faut savoir que dans toute cette crise, en fait, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que c'est vraiment les Américains qui sont sur le devant de la scène, c'est-à-dire qui alertent. Et je me suis demandé si c'était pas lié au fait qu'en 2014, justement, il y avait eu une espèce de surprise, une difficulté à réagir parce que la Crimée avait été annexée en 2 semaines et qu'il y avait le développement du séparatisme à l'est de l'Ukraine. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce d'anticipation, on se prépare au pire et on l'annonce. Et habituellement, ce sont plutôt les Ukrainiens qui alertent. Regardez ce que font les Russes. Et là, ils se retrouvent dans une position un petit peu différente parce que finalement, ce sont les Américains qui sont en position d'alerte. Il n'en reste pas moins que les Ukrainiens sont extrêmement inquiets. Je pense que surtout, ils essayent de se convaincre ou d'être convaincus que les Américains resteront leurs alliés, quoi qu'il arrive. Mais parfois, ils en doutent.
C'était Alexandra Goujon, enseignante à Sciences Po. Elle a publié « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre » en novembre 2021 aux éditions du Cavalier Bleu. La compagnie aérienne Emirates a annoncé jeudi la reprise temporaire des vols vers toutes ses destinations américaines après le report du déploiement de la 5G autour des aéroports américains. La compagnie aérienne de Dubaï avait annoncé mardi la suspension des vols vers 9 aéroports américains. Mais le lendemain, les opérateurs de téléphonie mobile AT&T et Verizon ont finalement retardé l'installation de la nouvelle technologie d'Internet mobile ultra rapide afin d'éviter le potentiel chaos craint par le secteur. Sur ces craintes soulevées par les compagnies aériennes, Abdourahman Dia a joint à Paris l'économiste du secteur des télécoms, Stéphane Dubreuil.
L'Europe a dès 2017 travaillé sur cette problématique qui est que la 5G utilise une bande de fréquence particulière, qui est ce qu'on appelle les ondes millimétriques, qui sont les ondes situées entre 26 et 29-30 GHz. Et en fait, on sait que cette tranche de fréquence est utilisée par l'armée, les satellites, les liaisons hertziennes. Donc on sait qu'elles sont encombrées par d'autres acteurs. Les États-Unis ont fait un choix différent sur les bandes de fréquence, et il s'avère qu'ils partagent avec l'armée, c'était connu dès le départ, sauf que bah, là, en ce moment, on va dire qu'il y a des craintes qui sont pour certaines justifiées, pour d'autres pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je pense que Boeing étant dans une très mauvaise passe, ayant des gros problèmes de fiabilité, la vague du coronavirus a mis à mal les compagnies aériennes. Et aujourd'hui, je pense que c'est un moyen pour dire, si on a des retards et si on a un surcoût à cause de la 5G, on demande des compensations.
Donc pour vous, les constructeurs, notamment Boeing, ont traîné un peu les pieds, ils n'ont pas mis à jour leur technologie, c'est un peu ça?
Non, c'est pas qu'ils n'ont pas mis, c'est que je pense que il y a eu des tests aux États-Unis comme en Europe, tout le monde l'a fait, la France aussi, on a fait des tests autour des aéroports, etc. Donc on sait les impacts que ça peut avoir. Ils sont très minimes, faut être clair. Néanmoins, on n'utilise déjà pas tout à fait les mêmes bandes de fréquences en Europe et aux États-Unis, ça c'est important. L'enjeu militaire est un enjeu qui est prégnant aux États-Unis. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs Donald Trump a boycotté Huawei et a réagi à un moment. C'est qu'il y avait aussi la crainte qu'on avait des fréquences qui étaient très proches des fréquences militaires. Donc ça posait des inquiétudes. Aujourd'hui, on sait comment faire pour limiter ces risques-là.
C'était Stéphane Dubreuil, économiste du secteur des télécoms. Fans nigérians du ballon rond encouragent les Super Eagles chez eux et au Cameroun où se déroule la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Parmi eux, des centaines de réfugiés nigérians et des personnes déplacées à cause de Boko Haram le long de la frontière avec le Cameroun. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka Yaoundé, récit Eric Manirakiza.
Des fans nigérians entonnent l'hymne national de leur pays et encouragent leur équipe de football, les Super Eagles, dans le nord de la ville de Garoua. Garoua accueille des matchs pour les équipes d'Égypte, de Guinée-Bissau, du Nigeria et du Soudan. Selon la Confédération africaine de football CAF, des milliers de supporters nigérians sont venus à Garoua, mais des centaines d'entre eux n'ont pas eu à faire un long voyage. Mohamed Chiroma Faiza, Nigérian de 19 ans, vit depuis 6 ans dans le camp de réfugiés de Minao au Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Elle a fui son village dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, après que des militants de Boko Haram ont attaqué leur école. S'exprimant à la télévision publique camerounaise, elle affirmait que les autorités l'ont aidé ainsi que plus de 20 autres supporters de l'équipe de Nigeria à regarder les matchs à Garoua.
Je suis venu soutenir le Nigeria parce que c'est mon pays. Peu importe où je vais, je ne pourrai jamais oublier mon pays. Je ne pourrai jamais oublier le Nigeria. Je veux que les joueurs nigériens jouent très bien et gagnent ce tournoi.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'OACR, affirmait que 68 000 réfugiés nigériens se trouvent dans le camp de Minao, au Cameroun. Ils ont élu Isaac Luka, qui vit dans le camp depuis 2014, comme leur chef. Luka a également fui l'état de Borno en juin 2014, après que les terroristes de Boko Haram ont tué plus de 20 personnes dans son village, dont sa famille. S'exprimant depuis Garoua, il affirmait que le fait d'encourager l'équipe de football du Nigeria montre à quel point les réfugiés aiment leur pays et espèrent la paix pour pouvoir un jour rentrer chez eux.
Je considère le football comme un moyen de résoudre les problèmes. Si vous regardez le match entre le Soudan et le Nigeria, vous savez que le Nigeria est confronté à des problèmes de sécurité. Le Soudan est confronté à des problèmes de sécurité. Si les deux réfugiés soudanais et nigériens peuvent se réunir et regarder leurs joueurs sur le terrain, c'est quelque chose qui peut apporter l'unité parmi les réfugiés.
Selon Luka, les réfugiés ont encouragé l'équipe nigériane qui a remporté une victoire 1-0 contre l'Égypte la semaine dernière et une victoire de 3-1 contre le Soudan samedi. Le Nigeria a joué son troisième et dernier match de groupe contre la Guinée-Bissau mercredi. Les Super Eagles ont arraché la victoire de 2-0. L'OHCR affirme avoir aidé au moins une centaine de réfugiés nigériens au Cameroun à se rendre au stade pour assister au match. Les autorités camerounaises affirment qu'outre les réfugiés, plusieurs centaines de Nigériens déplacés par Boko Haram se trouvent également à Garoua pour soutenir l'équipe nigériane de football.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin et Michel Joseph. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.